Bonjour et bienvenue. On a sur la table aujourd'hui le tout dernier numéro de l'hebdomadaire e-Week. Notre mission, comme d'habitude, on va aller chercher ce qu'il y a de plus marquant, de plus surprenant, pour essayer de comprendre les courants qui agitent le Maroc et le monde.
Et ce numéro est particulièrement dense, oui. On va parler d'économie, de géopolitique, mais on va commencer par un débat de société qui touche vraiment au cœur de l'intime et du politique.
Exactement. On plonge direct dans le vif du sujet avec une idée qui, franchement, m'a interpellée. Et si on commençait à payer les femmes pour le travail domestique? Je veux dire, par l'État. Il y a 10 ans, on en aurait rigolé. Aujourd'hui, au Maroc, c'est un vrai projet à l'étude. Alors, décortiquons un peu ça. Ce projet, il a un nom, le Revenu Universel pour les Femmes au Foyer, le RUFF. Et pour bien saisir l'enjeu, il y a un chiffre qui claque. Donné par les sources, les femmes marocaines passent en moyenne 5 heures par jour aux tâches domestiques.
5 heures.
Les hommes, 27 minutes. C'est un gouffre. Plus de 90% de ce travail invisible est fait par des femmes.
C'est énorme.
Et c'est dans ce contexte que la ministre de la Solidarité, Naïma Ben Yahia, a lâché la petite bombe en annonçant un dispositif de soutien. La question que tout le monde se pose est simple. Est-ce une avancée vers l'équité ou est-ce que ça risque de les enfermer encore plus dans ce rôle de femme au foyer?
Ce qui est fascinant, c'est la prudence avec laquelle le gouvernement avance. L'article insiste beaucoup là-dessus.
Ah oui.
Attention, ce n'est ni un salaire que le mari devrait payer, ni une nouvelle ligne dans le code de la famille, qui est déjà un sujet.
Électrique.
D'accord. On nous le présente comme un dispositif social universel. Et les premières étapes, en fait, elles sont très pragmatiques.
C'est-à-dire?
D'abord, élargir la couverture médicale à toutes celles qui n'en ont pas. Puis, les intégrer petit à petit au régime de protection sociale. L'objectif, c'est de commencer par sécuriser.
D'accord. Donc, on ne parle pas d'un chèque mensuel tout de suite, mais j'imagine que même cette première étape, ça a dû déclencher un débat économique féroce, non? Je vois déjà les objections.
Évidemment. Le débat, il est polarisé autour de deux arguments principaux. D'un côté, il y a la crainte de ce que les économistes appellent l'effet pervers.
Mmh.
En gros, si on crée une allocation, même modeste, est-ce que ça ne va pas décourager certaines femmes de chercher un emploi officiel, et donc freiner leur insertion sur le marché du travail? C'est une vraie question.
Le fameux piège à inactivité.
Exactement. Sauf que l'argument inverse, et il est très puissant, c'est que pour des millions de femmes, le poids de ces tâches domestiques, ce n'est pas un choix.
Non, c'est une barrière.
C'est une barrière infranchissable qui les empêche de travailler. Pour elles, ce soutien ne serait pas un frein, mais une bouffée d'oxygène. Peut-être la première marche vers une forme d'autonomie, un moyen de payer une garde d'enfant pour pouvoir chercher un emploi, par exemple. Le cœur du débat est là. Est-ce un piège ou un tremplin?
Et l'article regarde un peu ce qui se fait ailleurs. J'imagine que le Maroc n'est pas le premier pays à se poser la question.
Non, loin de là. C'est une tendance de fond. Dès 2013, l'ONU alertait déjà là-dessus. Et les sources donnent des exemples très concrets. En Espagne, par exemple, les années dédiées au travail domestique peuvent être comptées pour ouvrir des droits à une retraite minimale.
Ah, c'est intéressant.
En Allemagne, c'est un système de points retraite pour le parent qui arrête de travailler pour élever les enfants.
Le plus souvent la mère, on imagine.
Voilà. Donc, si on résume, il n'y a pas de solution miracle, mais plutôt une sorte de boîte à outils mondiale. Certains pays utilisent l'outil de la retraite, d'autres, comme le Québec, la fiscalité, avec des déductions de frais.
La question pour le Maroc, c'est de savoir quel outil est le plus adapté à sa culture, à son économie.
C'est précisément ça. Et on voit bien que l'enjeu dépasse l'économie, c'est culturel. Mettre un prix, même symbolique, sur ce travail, c'est envoyer un message à toute la société. Cette contribution, qu'on croyait gratuite et naturelle, elle a une valeur.
Oui, ça change tout.
Ça change la perception, la dynamique dans le couple. Le Brésil est même allé jusqu'à inscrire la valeur sociale du travail domestique dans sa constitution. C'est un geste politique très fort.
Du coup, la question que pose l'article, c'est comment on fait pour valoriser ce travail sans pour autant y assigner les femmes? C'est un équilibre incroyablement délicat à trouver.
Un véritable fil de rasoir. Le Maroc a l'occasion d'être pionnier, peut-être d'inventer un modèle hybride. Mais une chose est sûre, ce débat ne fait que commencer et il va être passionnant à suivre.
Et cette question de la valeur, elle n'est pas que symbolique ou sociale. Elle se traduit de manière très concrète dans les investissements massifs que le magazine met en lumière cette semaine. On a l'impression que le pays tout entier est en train de construire sa valeur future.
Absolument. La transition est parfaite. Prenez l'interview de Brahim Ould Er-Rachid sur le développement des provinces du Sud. Ce n'est pas juste une liste de projets, c'est une stratégie. Depuis 2015, on voit se dessiner une vision épatante. Le mégaport atlantique de Dakhla, l'autoroute qui va relier Tiznit à Dakhla, des zones industrielles, des fermes solaires.
L'objectif, c'est de faire de la région un pont, c'est ça?
Un hub économique, oui. entre le Maroc, l'Europe et, je cite, « sa profondeur africaine ».
Et quand on lit le reste du magazine, on se rend compte que ce n'est pas un effort isolé. C'est systémique. Je vois ici l'investissement d'Alstom, 100 millions de dirhams pour une nouvelle usine.
Oui, qui va produire des pupitres de conduite pour train.
Une première mondiale, ils disent, avec 200 emplois à la clé.
Exactement. Et on peut y ajouter le prêt de 270 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour moderniser les aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès.
Donc, si on met tout ça bout à bout...
Les ports, les autoroutes, les aéroports, les usines spécialisées, ce n'est pas de la poudre aux yeux. C'est la construction méthodique d'un écosystème industriel et logistique. On prépare le Maroc de 2050, là.
C'est une création de valeur très tangible, très hard power, si on veut. Mais ce qui est frappant dans ce numéro, c'est qu'en parallèle, il y a une offensive de soft power tout aussi impressionnante. Je pense évidemment à l'inscription du Kaftan au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une immense fierté.
Et c'est bien plus qu'une fierté. C'est la consécration d'une valeur culturelle et économique. Le Kaftan, ce n'est pas juste un vêtement. C'est un savoir-faire de 8 siècles, c'est l'art des Mahalem, ses maîtres artisans.
C'est tout un écosystème.
C'est un écosystème qui fait vivre des milliers de familles. Le label UNESCO, c'est un bouclier de protection et un puissant levier de promotion à l'international. C'est du soft power à l'état pur.
Comme la victoire du jeune designer Youssef Drissi et de sa marque Late for Work au Fashion Trust Arabia. C'est le premier Marocain à remporter ce prix. C'est un signal énorme pour toute la scène créative.
Tout est lié. Le succès de Drissi, la reconnaissance du Kaftan, ce sont des victoires qui construisent une image, une marque Maroc attractive et moderne. Et cette diplomatie culturelle, elle fonctionne en tandem avec une diplomatie plus classique, on va dire.
Ah oui, je suis content.
Le même magazine rapporte que le général Mohamed Béride, le chef des armées marocains, a reçu la Légion d'honneur à Paris. Ce n'est pas anodin, c'est le signe d'un partenariat de défense solide.
Donc, si je comprends bien, on a une stratégie à plusieurs niveaux. On construit des infrastructures, le hard, on promeut une culture unique, le soft, et on maintient des alliances stratégiques fortes. C'est une vision à 360 degrés.
C'est exactement ça. Le Maroc se positionne sur tous les échiquiers en même temps, pour maximiser sa valeur et son influence, dans un monde qui, comme le montre la suite du magazine, est de plus en plus imprévisible.
Et quel monde ! En tournant les pages, on titre le Maroc pour plonger dans un climat international vraiment lourd. La tension est palpable partout. Le dossier sur l'Ukraine est particulièrement éclairant.
Oui, on sent une accélération. La décision de l'Union européenne d'utiliser les revenus des 235 milliards d'euros d'avoirs russes gelés pour garantir un prêt massif de 90 milliards à l'Ukraine.
C'est un changement de paradigme, ça.
Complètement. On ne se contente plus de geler, on commence à utiliser. La réponse de Moscou a été glaciale, promettant des représailles. On franchit une nouvelle étape dans la guerre économique.
Et la pression ne vient pas que de là. L'article évoque un plan de paix que Zelensky aurait soumis à Donald Trump, avec des concessions majeures. Trump est décrit comme impatient et extrêmement frustré.
On sent une lassitude américaine qui pourrait complètement changer la donne. C'est un jeu d'équilibriste terrifiant pour Kiev, qui doit gérer ses alliés aux agendas parfois divergents.
Et cette instabilité n'est pas confinée à l'Europe.
Non, justement. En Asie, la situation est tout aussi explosive. L'article rapporte que les ministres de la Défense américains et japonais ont publié un communiqué commun exprimant leur profonde inquiétude face à la Chine.
Ça, ce n'est pas nouveau. Mais il y a eu un événement déclencheur.
Oui, un incident très spécifique. Un verrouillage radar d'un navire chinois sur des chasseurs japonais près de Taïwan. Pour être clair, un verrouillage radar, c'est quand un système d'armes pointe et suit activement une cible. C'est l'étape juste avant d'appuyer sur le bouton.
D'accord, c'est une manœuvre d'une agressivité extrême dans le langage militaire.
On est donc au bord de l'incident majeur en permanence. Et pour compléter ce tableau, le renseignement allemand tire la sonnette d'alarme sur le risque d'opération de sabotage russe sur son sol.
En vue des élections ?
Oui, en prévision des élections régionales de 2026. Bref, ce qu'on voit, c'est que les fronts se multiplient. Militaire en Ukraine, économique avec la Russie, tensions navales en Asie, guerre de l'ombre en Europe. C'est une fragmentation du monde en de multiples zones de conflit.
Ce qui rend d'autant plus crucial pour un pays comme le Maroc de solidifier sa position, comme on le voyait juste avant. Mais revenons au niveau local avec des nouvelles qui nous ramènent au quotidien des Marocains. Un quotidien fait de drames, mais aussi d'espoir.
En effet, on a une véritable mosaïque. Et on commence avec le plus sombre, ce terrible effondrement de deux immeubles à Fès. Le bilan est lourd, 22 morts, 16 blessés.
Une tragédie qui a bouleversé tout le pays.
Oui, et une enquête est ouverte, bien sûr, pour comprendre. Y avait-il un permis de construire? Les normes étaient-elles respectées?
C'est un drame qui met en lumière les failles d'un système. L'urbanisme, le contrôle, le mal logement.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de lire, quelques pages plus loin, un article sur le programme d'aide sociale directe qui touche maintenant 12,4 millions de Marocains.
Ah oui, le lien est...
D'un côté, on a le symptôme tragique d'une précarité, le logement insalubre. Et de l'autre, la tentative de réponse de l'État pour traiter la cause, la pauvreté. Les deux articles se répondent en miroir.
On a donc un drame qui expose les fractures et de l'autre, des solutions qui émergent, que ce soit par l'aide sociale ou par la technologie. C'est vraiment le portrait d'un pays à deux vitesses.
C'est tout à fait ça. Et la technologie, vous avez raison, l'article sur Goulia est fascinant. C'est le premier chatbot lancé par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger pour aider la diaspora.
D'accord.
Un assistant virtuel qui répond 24 heures sur 24, en plusieurs langues, aux questions administratives et juridiques. C'est un exemple concret de la modernisation de l'État pour maintenir le lien avec ses millions de citoyens à l'étranger.
Et au milieu de ces enjeux très sérieux, il y a une nouvelle qui va juste faire plaisir à beaucoup de gens, surtout à Casablanca. La réouverture du zoo de Aïn Seba est enfin datée.
Ah oui, ce sera pour le 22 décembre 2025. Enfin, pour quiconque a des souvenirs là-bas, c'est une institution qui renaît après des années de fermeture.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une nouvelle qui peut paraître anecdotique, mais elle ne l'est pas. La réhabilitation d'un lieu de mémoire collective, c'est aussi un signe de vitalité, un investissement dans la qualité de vie. Ces trois flashs d'infos, le drame de Fès, l'innovation de Goulia et la renaissance du zoo, dessinent parfaitement les contrastes du Maroc d'aujourd'hui. Un pays qui lutte contre ses problèmes structurels tout en se projetant avec ambition.
C'est une excellente façon de résumer. Quand on referme ce magazine, on a l'image d'un pays en pleine introspection sur son contrat social, avec ce débat sur la valeur du travail des femmes, et en même temps un pays qui met le turbo sur les investissements pour construire son avenir économique et son influence culturelle, tout ça en essayant de naviguer dans un monde de plus en plus chaotique.
Et le fil rouge qui relie tout ça, c'est bien ce concept de valeur dont on a parlé. Le débat sur le RRUF nous force à questionner la valeur du travail non rémunéré. La reconnaissance du caftan par l'UNESCO, c'est la consécration de la valeur de notre patrimoine. Les investissements dans l'industrie, c'est la création de valeur économique. Tout tourne autour de cette question. Qu'est-ce qui a de la valeur et comment on la reconnaît?
Et ce mot « valeur » me fait penser que même la reconnaissance du caftan, ce n'est pas juste culturel, c'est aussi une immense valeur économique pour le tourisme et l'artisanat. Tout se tient, en fait.
Et pour laisser une dernière pensée en suspens, une question qui prolonge un peu notre discussion, toutes ces sources nous montrent une nation qui est en train de réévaluer, de redéfinir ce qui compte pour elle au XXIe siècle. Alors, la question est, que se passe-t-il pour une société lorsqu'elle commence à reconnaître et même à vouloir quantifier des contributions qu'elle a toujours considérées comme acquises ou invisibles? Que ce soit le travail dans l'intimité du foyer, la transmission d'un savoir-faire artisanal ou même son poids stratégique sur la scène mondiale. C'est peut-être dans cette prise de conscience que se joue la transformation la plus profonde.